Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
On va évoquer dans un instant Meta et bien sûr notre ami Mark Zuckerberg qui, tout comme Elon Musk, a fait des petits trucs sympathiques cette année, plutôt cool. Mais auparavant, tout à l'heure on évoquait donc Internet Explorer. Il y a quand même aussi l'iPod, aussi la fin de l'iPod. C'est vrai que cette saison a été marquée par des disparitions, on va dire des boutons off de certaines technologies. Il y en a quand même aussi d'autres. Alors Clubhouse n'est pas encore en fonction off, mais c'est pas la folie quand même pour Clubhouse. On est d'accord. Hein. Alors que l'année dernière, moi perso, hein, le premier, j'étais à fond Clubhouse. Hein. Alors à la fin de T'es con, on faisait des Clubhouse. Ouais, c'était super sympa d'ailleurs. Hein.
Je suis très heureux de n'y avoir jamais cru. Oui. J'ai toujours dit que je n'y croyais pas.
Et j'en suis. C'est vrai. Bah oui.
Alors si je peux me permettre, moi je disais un que je ne croyais pas du tout à Clubhouse, mais deux que je croyais beaucoup à cette fonction qui est un peu une forme de radio libre auto-organisée que je trouve absolument géniale. Et j'adorais ça. Et j'avais dit, alors bon, je suis pas pour me lancer des fleurs, mais j'avais dit pour moi c'est Twitter qui va récupérer cette fonction. Et du coup j'en profite parce que moi c'est s'il y avait un top à donner pour moi Spaces, donc du coup la fonction Twitter, je trouve ça absolument génial. Ça permet d'avoir une approche totalement différente et de parler avec des gens d'une façon totalement différente. J'ai pas d'ailleurs assez de temps pour en faire, pour en organiser ou même pour y participer, mais j'adore écouter simplement les Spaces et je trouve que l'outil est absolument génial et parfaitement complémentaire avec ce que propose Twitter, c'est-à-dire du débat, mais aussi quand même, enfin en général quand on parle avec quelqu'un à la voix, à l'oral, on se comporte pas du tout de la même façon qu'à l'écrit. Et souvent, on est quand même plus sympa. Et ça permet aussi d'avoir des échanges un peu plus constructifs.
Oui.
Et donc, je trouve que
Tu te caches pas derrière un pseudo. Enfin, voilà.
Ouais. Et puis même, quand on parle, on se sent un peu différent, quoi. On n'est pas en train de taper. C'est toujours, c'est toujours plus facile de dire des choses à l'écrit qu'à l'oral. Et donc, finalement.
Comment? À l'oral qu'à l'écrit.
Bah, ça dépend. Enfin, quand c'est des insultes, c'est plus facile à l'écrit qu'à l'oral. Et c'est plus facile de dire d'autres choses plus sympas et plus constructives à l'oral qu'à l'écrit.
C'est la force de Clubhouse.
Voilà. Et c'est la force de Clubhouse. Moi, je croyais pas du tout à Clubhouse parce que une appli spéciale pour ça, j'arrivais pas trop à comprendre l'intérêt. Et en fait, je me suis dit surtout que cette fonction, comme beaucoup de fonctions qu'on avait eues avec, à l'époque, Periscope ou avec Meerkat, qui était la boîte israélienne qui avait lancé ça, Periscope l'avait repris et c'était fini pour Meerkat.
Bah voilà.
En fait, quand on a une fonction qui est aussi sympa, mais qui est aussi simple à dupliquer, matériellement, ça peut pas trop marcher et on est obligé de se faire aspirer. Et d'ailleurs, il y a même pas de rachat, c'est-à-dire que ça sert à rien de racheter une boîte.
Ils ont tenté, hein. C'est ça le truc, c'est qu'ils ont été trop gourmands, Club, parce que Twitter leur avait proposé 4 milliards de dollars quand même pour les racheter.
Oui, t'as raison. Ça, je l'avais oublié. Ils auraient dû accepter.
Ils n'avaient pas de modèle économique et ils pensaient que les gens allaient télécharger leur application, qui était quand même à l'époque sur un côté membre.
Il y avait cet effet club, mais bon, qui marche
au début. Au début, ça fonctionne, mais après, dès qu'on est sur une stratégie d'expansion, ça ne pouvait pas
fonctionner. En fait, dès qu'ils ont arrêté la cooptation, que ça a commencé à ne plus fonctionner, ce qui est intéressant.
Il aurait fallu un autre système. S'ils avaient vraiment un côté plus rémunérateur, bah peut-être qu'ils auraient pu.
Et puis n'oublions pas une chose aussi importante, c'est que cette appli est arrivée dans un contexte de pandémie.
Bien sûr.
Était tous chez soi, souvent bloqués. On s'emmerdait, hein. Et c'est vrai que ce type d'outil était très sympa. Ça permettait de recréer du lien, de pouvoir discuter avec des gens des passions communes, etc. Et puis bon, après, voilà, heureusement, il y a eu le déconfinement. Et puis, on a recommencé à sortir. C'est les sorties, les bars, les restos qui tuent ce type d'appli parce que, il faut trouver du temps. J'adorerais, et je suis comme toi, j'adorerais qu'on fasse des Spaces. On va essayer d'ailleurs, sincèrement.
Il faut vraiment
qu'on en fasse parce que, moi, j'adore discuter avec vous. C'est vrai que nous, là, on est dans notre entre-soi, en quelque sorte. On est dans notre plateau, on discute entre nous, mais pouvoir échanger avec vous, ça serait formidable. C'est vrai que ce type d'outil permet ça.
C'était aussi le problème de Clubhouse. Il y avait aussi un entre-soi qui faisait qu'il y avait beaucoup de journalistes, de communicants, de politiques.
Tu avais des passionnés qui venaient et qui pouvaient malgré tout participer au débat.
C'est pas le cas sur Twitter. Moi, je regarde le soir, il y a souvent des talks sur le PSG, par exemple, des trucs comme ça.
Mais ça a ouvert le truc.
Parce qu'il y a une communauté monstrueuse.
Twitter, c'est l'endroit parfait.
Les tendances, en fait, ça va jouer. Par exemple, moi, j'ai beaucoup vu sur les législatives, sur la présidentielle, il y avait des débats après des interventions, après des émissions politiques. En fait, c'est exactement le bon endroit, Twitter, parce qu'on n'aurait pas le réflexe d'aller sur Clubhouse pour écouter le débat de l'émission qu'on vient de voir. Alors qu'on ouvre Twitter, on voit débat sur l'émission de TF1, on se dit ah bah ouais cool, je la regarde et on se retrouve là-dessus, c'est très cool.
Oui, Twitter c'est le lieu de débat par excellence, donc la fonction qui est une fonction en plus d'ailleurs, qui n'est pas d'ailleurs monétisée. Mm-hmm. Alors je sais pas comment ça peut être monétisable, mais c'est la fonction parfaite pour Twitter. Mm-hmm. Et c'est vrai que faire une application spécifique pour ça, moi j'ai un peu du mal, enfin j'avais un peu du mal à comprendre. Et là Twitter encore une fois c'est vraiment différent. Il y a des gens qui sont vraiment appropriés cette option. Et je trouve que ça permet de mélanger comme ça des gens qui a priori ne se parlent pas, ce qui n'était pas le cas sur Clubhouse. D'ailleurs, à l'époque, Clubhouse, on était sur Clubhouse entre gens très technophiles et 90% des débats, c'était sur Clubhouse. C'est-à-dire qu'on parlait sur Clubhouse de Clubhouse.
Au début, après, ça a un petit peu évolué.
Oui, c'est vrai ça. Mais, au bout d'un moment,
on commentait ce truc-là. Voilà. Mais il n'y avait pas que de la tech. Hein. Il y avait. On parlait de cuisine, on parlait d'entrepreneuriat. Il y avait plein de sujets sympas comme sur Twitter Spaces.
Oui, mais il y avait un côté presque un peu LinkedIn, c'est-à-dire parle de sa boîte machin. Ouais. Moi, ça...
Oui,
il y
a des gens qui
faisaient des débats sur la liberté d'entreprendre.
Oui,
c'était très peu intéressant.
En effet.
Il y avait le volet crypto. Il y avait.
Ouais. Tu vois, typiquement, moi, on l'a fait l'année dernière pour Tech & Co et on avait des débats hyper intéressants où j'arrivais à avoir des invités dans Tech & Co. Et ils poursuivaient le débat, en fait, dans Clubhouse, et ça avait du sens. Ça avait du sens, tu vois, parce que c'est vrai que dans une émission de radio, t'es toujours limité par le temps, etc. Là, tu pouvais, en fait, étirer ta discussion. On avait eu notamment un ingénieur de la NASA qui est français et qui est top et qui avait participé à ce truc-là. Ça avait fait un bon moment, un très bon moment.
Ça ressemble un petit peu aux fonctionnalités que t'as sur Twitch aussi en termes d'interactivité.
Mais c'est ça.
Un streamer, des streamers qui débattent.
Il n'y a pas l'image.
Mais avec la plus l'agilité.
Sauf que t'as pas l'image et sur Twitch, c'est une interaction plutôt avec le chat. Donc, t'as ce direct.
Et puis l'audio, c'est magique. Tu sais très bien, Anthony, tu fais de la radio comme moi. T'as pas besoin d'avoir une caméra et tout, tu fais ça, tu peux être dans ton canapé, dans ton lit, n'importe où, tu te mets tes AirPods et puis c'est parti, tu vois.
Justement, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est déjà, il n'y a pas l'image, donc il y a un côté cocon, et on aime tous la radio ici, qui est absolument unique. Et puis souvent, c'est Spaces, c'est le soir, donc comme tu le dis, et ça je trouve que c'est hyper important, on est détendu, on est dans son canapé, dans son lit... on s'est détendu et on parle d'une autre façon. De façon très différente de quand t'es en plateau sur Tech & Co.
Mais
et donc
sûr,
tu apprends et t'as des échanges que tu n'aurais
t'es
pas du
toi,
tout.
T'es dans un autre contexte.
T'es pas du tout dans le même contexte.
Alors bon, Clubhouse, voilà, compliqué, ça existe toujours, hein, ils sont pas enterrés, c'est pas comme Internet Explorer, ils ont pas encore leur petite tombe, mais bon, ça sent pas bon. Hein. Alors là, on pourra avoir la tombe Google Hangouts. Hein, qui a été encore une fois l'un des projets poussés, fonctionnalité poussée de Google, comme Google Plus, etc., qui tombe à la poubelle après. Mais bon, voilà, Google ne fait pas que des trucs qui réussissent.
Bah non.
C'était ambitieux quand même, Hangouts. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était toute cette messagerie unifiée qui voulait concurrencer WhatsApp, etc. Et puis bon, plouf quoi.
Ouais. Oui, bah c'est une nouvelle application de messagerie Google qui fait un flop, surpris,
qui va être remplacée par Google Chat du coup.
La deuxième, oui, c'est
voilà, maintenant c'est Google Chat.
Ouais, ça. Il n'y a pas grand chose de plus à en dire malheureusement.
Oui, ce qui est fantastique dans cette histoire, c'est qu'il y avait aussi Google Duo et Google Meet. Donc Google Duo, c'est FaceTime, donc appel vidéo d'un téléphone à un autre, et Google Meet, c'est Zoom. Et ils ont décidé de fusionner les deux. Mais alors là, je trouve qu'ils font du Google, c'est fantastique. Ils vont fermer Google Duo pour l'intégrer à Google Meet, mais en fait c'est l'application Google Duo qui va être mise à jour pour devenir Google Meet. Donc en fait, il faut supprimer Google Meet pour récupérer le nouveau Google Meet qui intègre les fonctions de Google Duo.
Il faut lire un PDF de 3 pages pour comprendre.
C'est incroyable. En fait, je trouve que la manière dont ils gèrent leur et après ils se plaignent, on n'arrive pas à avoir de deal avec Apple pour les RCS, pour les messages. Mais bon, arriver à choisir une application déjà et après peut-être que ce sera possible de négocier. Mais c'est hallucinant.
Il y a un dicton qui dit il y a deux choses immuables dans la vie, c'est la mort et les taxes. Et les impôts. Bon, j'ai envie de dire, il y a la mort, les impôts et les flops de Google
dans la messagerie. Ça, j'arrive pas.
Sauf, alors, par contre,
il y a plein de réussites.
Non, mais on plaisante.
Sur
par
la messagerie, c'est galère.
Mais par contre, je mets de côté Google Meet, qui, pour le coup,
génial.
Est vraiment génial.
Ouais,
là, je parle pas de messagerie parce que c'est vraiment de la visio. Mais Google Meet, en termes de compression, et je sais pas s'il y a un lien avec le savoir-faire de YouTube, mais moi, pour tester du Zoom, du Google Meet, du Microsoft Teams quand vraiment je suis obligé et que j'ai pas le choix, ou d'autres outils, Google Meet, le rapport débit qualité vidéo, je trouve, avec FaceTime d'ailleurs, c'est les deux meilleurs, et donc c'est vrai que là-dessus, sur la visio, Google a vraiment bien réussi pour le coup.
Bon, Anthony,
et qui se souvient de Google Plus?
C'est vrai, Google Plus, non mais c'est vrai, c'est
ils ont lancé des trucs qui se sont plantés, mais bon, c'est
Voilà pour les flops. Est-ce qu'il y en a d'autres? Vous en avez détecté d'autres ou pas?
Ouais, non, c'était pour les rest in peace.
Alors on va se garder quelques minutes tout à l'heure pour les vrais tops de cette année, de cette saison 2021-2022. Mais il faut quand même évoquer aussi, si on revient un peu sur ce qui a marqué ces derniers mois, c'est le virage à 360 mené par notre ami Mark Zuckerberg qui s'est dit bon voilà, Facebook, tout ça, c'est pas la forme. Hein, j'ai quand même pas mal de casseroles, voire quelques couscoussières quand même. Hein, ça commence à faire du bruit quand
là,
je marche.
On est passé clairement à la couscoussière.
Je lance ma petite bombe de fumée. Elle va s'appeler Meta, et vous allez voir, les gars, ben on va tout changer.
C'est ça.
Et ça, c'était fin d'année. Hein. Mm-hmm. Et là, on a vu un Mark Zuckerberg dans le métavers, en avatar, en train de sans corps. Ça, c'était oui, cool.
C'est vrai qu'il
même.
A un peu vrillé quand même,
il a un
le
peu vrillé.
Zuckerberg.
et voilà. Alors après, bon, on va en parler, mais qu'est-ce que vous pensez de ce virage quand même qui est étonnant entre, voilà, le patron des réseaux sociaux au monde, hein, il faut quand même le
oui,
dire.
Bien sûr. Bah, Facebook,
vers
Instagram, WhatsApp.
Ce nouvel univers qui a l'air de le passionner en plus, parce qu'on sent qu'il est vraiment investi par ce truc-là, qui est donc la réalité virtuelle et la réalité augmentée.
Ça lui permet de s'échapper de la réalité de son entreprise, ce qui est très compliqué. Parce
sans
que
doute.
Peut-être en un mot, mais il faut refaire la fresque de cette année pour Facebook, parce que ça a été la cata pour Meta ou la Meta pour cata, je ne sais pas trop comment on dit, mais enfin en tout cas, ça a été compliqué. Alors à partir de, effectivement, retour en arrière fin 2021, il y a les Facebook Files qui sortent, enfin toutes les lanceurs d'alerte de l'entreprise qui nous alertent sur le fait que Facebook et Instagram, on va dire, privilégient la rentabilité plutôt que le bien-être de ses utilisateurs et qu'ils sont très au courant que ça crée des problèmes de complexe chez les adolescents, l'utilisation d'Instagram, etc. Mais qui n'en ont absolument rien à faire. Ça commence énorme de... Bah, c'est, moi, je résume, hein, gros crème.
Enfin, non, mais t'es gentil, non, ouais.
Résumé. Non, mais voilà. Et donc, ça part de là. Bon, c'est pas une très bonne image, évidemment. En plus de ça, ils ont quand même quelques problèmes structurels, c'est-à-dire problème d'érosion des utilisateurs, parce que Facebook, on se moquait de MySpace quand Facebook est arrivé, mais Facebook, c'est le nouveau MySpace, hein, en gros, c'est vraiment devenu le truc de vieux, et donc il y a une érosion du nombre d'utilisateurs. Problème de monétisation de leur audience, parce que Apple a changé ses conditions d'utilisation et que maintenant, quand on a un iPhone, on peut choisir de ne plus être ciblé par de la publicité. Enfin, en gros, ça fait pas du tout les affaires de Facebook, ça leur fait perdre de l'argent.
Mmh.
Et dans ce contexte-là, alors est-ce que c'est à cause de ça ou est-ce que c'est dans ce contexte-là, mais en tout cas, Mark Zuckerberg dit bon, je vous présente un nouveau cap, on part dans le métaverse, je vais vous présenter. Et alors, la version qu'il nous en propose, qui est très différente de la version réelle de ce que c'est aujourd'hui, c'est Ready Player One, donc le film de Spielberg. Vous allez vivre une deuxième vie virtuelle avec un casque de réalité virtuelle, ou pas d'ailleurs, mais enfin bon, ce sera l'une des portes d'entrée. Vous mettrez un casque et vous serez projeté dans un monde incroyablement immersif. Vous pourrez y travailler, vous aurez des écrans projetés devant vous, vous pourrez passer votre vie, plutôt que d'être en entreprise, dans le métaverse, vous pourrez aller à des concerts, vous pourrez avoir votre maison dans le métaverse, accueillir vos amis, acheter des trucs en NFT, puis comme ça, tout le monde gagnera du pognon avec ça. Les commerçants, les utilisateurs, ce sera formidable. Mais le truc qui nous montre pour l'instant, c'est des images. On se croirait dans un voilà. On a souvent pris l'image des Sims. Enfin voilà, un jeu vidéo des années 90, pas forcément très bien réalisé.
Ça ressemble un peu à Choupi.
Arrive en NFT.
Ceci dit, Choupi est mieux fait. Choupi est mieux fait.
C'est ça.
Choupi arrive en NFT.
Donc là, il y a un vrai effet déceptif dans le sens où on nous vend un truc qui est incroyable. Et moi, j'attends de voir. Et je suis pas. Je sais que vous j'attends de ce que vous allez dire, mais je sais que vous êtes très dubitatif par rapport à ça. Moi, j'ai envie d'y croire, mais c'est vrai que pour l'instant, ce qu'on nous en a montré, c'est un peu ridicule. Voilà.
Oui.
Après, on se dit, voilà, il a brouillé un peu les pistes en lançant ce concept de métavers, mais je pense que ça fait des mois et des années qu'il y travaille, parce que on voit qu'il a racheté Oculus, il pousse le Quest. Le Quest est sorti bien avant son grand délire de pousser le métavers.
On en parlait au début de l'émission. Je sais pas si tu te souviens de cette conférence.
Ça fait un moment qui mijote son truc.
Tu te souviens du Mobile World Congress, mais ça devait être, je sais pas, en 2012,
bien
2014,
avec cette
image incroyable.
Ah ouais.
Conférence de presse où on demande à un moment à tous les journalistes de mettre un casque de réalité virtuelle sur la tête. c'était une conférence de Samsung. Hein.
Ouais. Oui, tout à fait.
Et le Galaxy S7.
Exactement. Donc c'était pour un téléphone, c'est même pas pour un casque de VR. Voilà. Donc on met le casque de VR sur la tête et donc on est projeté dans la conférence de presse en réalité virtuelle, etc. Et là, Mark Zuckerberg qui arrive de nulle part par surprise et qui se balade dans les rangs. Ouais. Personne ne le voit
parce que tout le monde a le masque.
Et il y a cette photo qui est prise pendant le truc et qui est fait le tour du monde derrière où on voit tout le monde comme des zombies avec leur casque sur la tête. Mark Zuckerberg qui marche au milieu des rangs. Et on se dit, là, c'était
c'est
les prémices du métaverse. Mais oui, c'est ça. Et on était en 2012-2014. Il y réfléchissait déjà.
On ne peut pas lui reprocher de l'effet d'aubaine, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui mature depuis quelques années.
Je pense.
Tout son discours méta, il a pas balancé là. Après, moi, le seul truc que je me dis, c'est que il est vraiment en avance par rapport à l'innovation technologique. Aujourd'hui, et lui-même le dit quand on voit, je sais pas si vous avez vu cette vidéo qui est très intéressante d'ailleurs, où il teste, et ça aussi, on peut quand même le féliciter, où il teste en fait tous les concepts de masque ou de casque qu'il est en train de mettre en place et de voir les avantages, les inconvénients de chacun, etc. Et quand on voit son matos, on se dit, c'est pas prêt d'arriver, c'est pas prêt.
J'ai même eu la chance de participer à une conférence vidéo pour Numérama avec Mark Zuckerberg là-dessus, où il nous avait présenté les cas, c'était hyper intéressant. Et ce qui est rare en fait pour un constructeur comme Meta, c'est que ce qu'il disait clairement, c'est aujourd'hui la techno, elle est pas du tout prête, les casques, ils ont des gros problèmes. Et par contre, c'est là où il a un peu des dérives dans son discours, c'est qu'il dit que pour arriver à son métavers idéal, il faut manipuler le cerveau humain pour lui faire croire que c'est la réalité. Il a expliqué plein de concepts différents sur notamment comment arriver à faire bouger la rétine quand on est à l'intérieur d'un casque avec un écran qui bougerait très légèrement. Du coup, ça nous ferait croire qu'il y a une modification de la réalité. Enfin, ça va très loin dans le raisonnement, mais il y a une vraie volonté pour le coup d'arriver à rendre la réalité virtuelle beaucoup plus réel qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui.
Oui, il dit entre 5 et 10 ans, hein, quand même.
C'est
hein.
ça. Pour miniaturiser, à la fois rendre l'image plus réaliste et puis pour miniaturiser tout ça, parce que franchement, il n'y a pas moyen de porter un casque, ne serait-ce que quelques heures par jour, si on garde les formats qu'on a actuellement.
C'est un des gros problèmes.
Bon, on a fait le tour de Meta. Alors, top ou flop, à votre avis, cette année Zuckerberg?
Moi, je dirais
Nico.
Flop total.
Flop total.
Ouais, vraiment. Mais parce que je lui en veux. Sur un truc en particulier, c'est qu'il a mis le mot métavers dans la bouche de tout le monde, y compris de marques, Carrefour, Orange, tout le monde dit métavers partout. Ouais. Et surtout qu'en fait, il y a une confusion immense entre métavers, réalité virtuelle, monde ouvert, plein de choses. Et c'est là où je pense que quand on dit qu'il commençait à y travailler depuis 10 ans, il y a 10 ans, il travaillait sur la réalité virtuelle. Et pour le coup, je suis quelqu'un qui croit énormément à la réalité virtuelle, mais je ne crois pas une seconde en l'acceptabilité dans une société d'un monde virtuel dans lequel on irait le soir. Donc je pense que le métavers n'est pas possible, mais en revanche que porter un casque de réalité virtuelle pour faire des conférences à la Google Meet, pour voir des amis, pour aller jouer, tout ça, ça l'est complètement.
Si le casque s'améliore.
Et encore, il y a toute la question de l'acceptabilité du casque, parce qu'avoir un casque chez soi c'est une chose, mais dans la rue c'est une autre parce que ça cache les yeux, et dans la société il y a aucun pays où on cache les yeux.
Donc, on sait nous tous que on est très très loin au niveau hardware de ce type d'innovation.
Oui, bien sûr,
mais c'est pas possible aujourd'hui.
Moi, ce que j'en veux, c'est qu'aujourd'hui on a mélangé métavers et réalité virtuelle, qu'on pense que mettre un casque sur la tête c'est le métavers, et c'est pas du tout le cas. Le métavers en lui-même, il y a quelques applications qui s'y apparentent. C'est très loin de la promesse, c'est très dur d'imaginer que ce soit modérable ou quoi que ce soit un jour. Donc je pense qu'ils ont réussi quelque chose, hein. C'est que finalement on parle très peu de tous les scandales, donc là-dessus c'est réussi. Je pense qu'il y croit vraiment, Mark Zuckerberg, mais on s'est un peu moqué du monde pendant cette année.
Anthony ?
Non, moi je serais un petit peu moins sévère que toi. Alors, j'irais pas jusqu'à dire que c'est un top, parce que ce qui nous a été montré jusque-là, encore une fois, c'est quand même très 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 insuffisant.
C'est un flop. Tu mélanges un peu les deux.
Mais il a au moins le mérite d'ouvrir un cap et de nous proposer quelque chose d'autre. Quand il dit, c'est le futur d'Internet, moi, à terme, je pense que les gens n'auront plus de téléphone dans la poche, mais qu'ils auront, alors peut-être pas un casque de réalité virtuelle, mais peut-être des lunettes de réalité augmentée qui permettront aussi d'interagir avec ce métaverse qu'il imagine, et peut-être que ça prendra pas exactement cette forme-là. Pour l'instant, c'est un concept, encore une fois, qui est balbutiant, qui est encore en cours de définition, et sur lequel, c'est vrai, je te rejoins là-dessus, tout le monde ajoute un peu, c'est un peu l'auberge espagnole, et on a tendance à y mettre n'importe quoi aussi. Mais je trouve que le simple fait d'ouvrir cette perspective-là et de dire, peut-être que Internet, ce sera demain, ce sera plus juste ton téléphone ou ton browser sur ton ordinateur, ça pourra passer par cette interaction-là, qui est quand même digne d'un film de science-fiction. Moi, je trouve que c'est intéressant. Voilà. Donnons sa chance au produit, voyons où ça va.
Oui, bien sûr.
On en reparle dans 1 ou 2 ans, et on refait le point.
Et faut rappeler qu'il y a un masque qui a l'air assez innovant, qui sort à la fin d'année, qui sera très, très, très cher.
Cambria.
Mais qui, serait le top du top actuel technologiquement de ce qu'on peut faire en matière de VR. Raphaël.
Moi, c'est un flop. Alors, flop pour les raisons que vient de donner Nico, et franchement, j'adhère mot pour mot à ce qu'il a dit, donc j'ai pas la peine de rajouter grand-chose. Un top, si on se pose du point de vue du communicant en situation de crise, parce que c'est la meilleure dans l'histoire de la communication.
Ouais, c'est
crise,
le leurre parfait, là.
C'est quand même exceptionnel. C'est-à-dire d'arriver, tu parlais d'enfumage plus ou moins tout à l'heure, c'est le plus bel enfumage de l'histoire moderne. Ah, oui. Je pense, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'Instagram, Facebook, ça devient catastrophique, ils se font exploser de partout, les régulateurs, ouais, etc.
TikTok,
puis ils sortent un concept à la con de métavers qui, dans un an, on en parlera. D'accord. On en parlera comme de Clubhouse. Voilà, ça n'existera plus dans un an. Et je parle pas encore une fois, mais je reprends ce que tu dis. Rien à voir avec la VR qui, là, est autre chose. Mmh. Et je suis sûr que ça peut être
un de. C'est plus un problème de vocabulaire, finalement.
Mais voilà, mais le métavers, c'est un mot totalement.
Mais c'est leur faute. C'est eux voilà. Qui ont provoqué ça.
Donc c'est une communication de crise qui est absolument incroyable et qui a non seulement enfumé tout le monde, ou une grande partie des gens, et qui en plus essaime et fait des petits, alors que sur des groupes qu'on voyait pas venir. Donc voilà, moi je suis assez ahuri devant cette situation. Ouais, donc un flop et un top pour le dire
en matière d'enfumage.
Voilà, exactement. Ou la dire comme d'ailleurs.
Anthony n'est pas d'accord.
Non, je crois pas, parce que moi j'ai pas l'impression. Alors peut-être qu'ils ont tenté une diversion, mais si c'est le cas, ils y sont pas parvenus, parce que à la fois, on a parlé effectivement beaucoup du métaverse, mais ça ne nous a pas empêché, et y compris la presse généraliste, de parler de tous les déboires de Facebook tout au long de l'année. Il y a eu l'histoire de la mégapanne, il y a eu les Facebook Files, il y a eu le fait qu'ils aient perdu beaucoup d'argent, qu'ils perdent des abonnés. Mmh. Et si tu veux, pour moi, l'un n'a pas empêché
TikTok
l'autre.
TikTok commence vraiment à leur
s'ils ont essayé de masquer un problème avec ce nouveau concept, c'est un peu comme quand tu mélanges, quand tu mets du déo pour cacher une odeur de pied. En général, ça marche pas. T'as les deux, en fait. T'as les deux qui se mélangent.
Bon, ils ont du bon déo quand même.
C'est une belle comparaison. T'as
vu l'image ?
Cette image, je vais s'arrêter là.
C'est l'enfumage au déodorant.
Ouais. C'est l'enfumage au déodorant, ça c'est pas mal. Bon, il nous reste quelques minutes. J'imagine que malgré tout, il y a des petites innovations qui vous ont marqué et qui pour vous sont des tops. Tiens, Nico, qu'est-ce qui t'a marqué toi ? Qu'est-ce que tu trouves de vraiment sympa sur les derniers mois et qui va bouleverser peut-être notre quotidien ?
Ça va bouleverser notre quotidien, mais c'est pas tellement une innovation en soi. C'est la nouvelle réglementation européenne qui va forcer les constructeurs à adopter l'USB Type-C, que je trouve extrêmement intelligente en fait. Et c'est exactement là où j'attends des autorités comme l'Europe. C'est que finalement, on peut dire oui, c'est que pour l'Europe, sauf que jamais de la vie, une marque va fabriquer un téléphone USB-C en Europe et un téléphone Lightning ailleurs. Donc en fait, avec cette réglementation-là, ils ont réglé un problème qui date de 10 ans sur le port universel et d'après plusieurs reports, ce ne sera pas le prochain iPhone, mais celui d'après qui va passer à l'USB-C. Et derrière, tous les accessoires, écouteurs, tablettes, etc. vont tous basculer vers l'USB Type-C.
En fait, il y aura l'USB Type-C plus de l'induction.
Plus de l'induction. On a le droit, si on n'a pas de... On est obligé d'avoir un port USB-C. Maintenant, si on n'a pas de port, on peut faire que de l'induction. Mais du coup, ça va contraindre finalement l'industrie à se déplacer vers ce port unique. Ça va régler un problème à la fois écologique et à la fois pratique qui est immense. C'est pas finalement que des questions financières. L'Europe, c'est aussi des questions de la vie de tous les jours.
Je serais curieux de savoir.
Il y en a qui ont ironisé là-dessus en disant oui, l'Europe, elle a que ça à faire. Mais en même temps, oui, je trouve ça intéressant d'aller sur ce genre de thématique.
Est-ce que ça a accéléré le calendrier d'Apple? Tiens, je serais curieux de savoir si, cette obligation européenne accélère le calendrier de switch chez Apple et de passer du Lightning à l'USB-C.
Ça fait 2 ans qu'on dit qu'ils doivent passer au Lightning à l'USB-C en 2023, sachant que la régulation entre en vigueur en début 2024. Donc normalement, le timing est plutôt bon. Après, la question, c'est aussi de savoir est-ce qu'il y a 2 ans, ils disaient le sujet, il a été mis sur la table déjà il y a 2 ans de ce projet. Donc peut-être qu'ils se sont dit ça devait être 2024 et bon, on le fera en 2023.
Je pense.
Ça jamais. Oui. Mais à mon avis, ça se joint à un an près.
Ce qui s'est longtemps dit, c'est qu'ils voulaient passer uniquement au sans fil, et peut-être que cette régulation-là les a forcés à dire bon bah tant pis, on mettra un USB-C et on passera pas qu'au sans fil parce que trop compliqué.
Messieurs, qu'est-ce qui vous a marqué aussi cette année? Top.
Je suis un peu jaloux de Nico. Non, mais pas l'USB-C, mais j'allais dire aussi la régulation européenne. Ouais. Alors c'est vrai que t'as parlé de l'USB-C, j'allais la citer. Mais en fait, la régulation européenne en général, avec les, alors c'est un peu technique, le DMA, le DSA, en gros les nouvelles obligations sur les plateformes, des obligations qui vont justement imposer des efforts en modération, en transparence.
L'App Store aussi.
Sur l'iPhone.
Parce que si tout suit son cours, dans 2 ans, on pourra choisir un autre magasin d'applications que celui officiel d'Apple sur un iPhone, ce qui est quand même un truc de dingue quand même.
Et finalement, on dit souvent l'Europe, c'est simplement l'innovation pour la régulation, c'est tout ce qu'on sait faire. Ouais, mais n'empêche qu'on le fait bien. Mmh. Et je trouve que dans ce rôle-là, je trouve que la Commission européenne est plutôt efficace et fait changer les choses. Et encore une fois, à chaque fois, je trouve, tu parles de l'USB-C, là je parle pour les réseaux sociaux et la modération, il y a une vraie plus-value pour le consommateur, le client, l'utilisateur.
Cool. Anthony, le mot de la fin.
Ouais, comme on n'aura pas le temps de parler de l'année record du jeu vidéo, qui était aussi un effet marquant, je vais garder.
Bah
justement, voilà, ça va être mon top. Moi, mon top de cette année, c'est Elden Ring, qui est le jeu de l'année de toute façon, ça c'est sûr, et qui nous montre que voilà, on peut avoir des nouvelles franchises, des nouvelles propriétés intellectuelles qui sont pas des jeux triple A qu'on connaît déjà depuis des années et qui peuvent connaître.
On arrive encore à innover.
C'est un jeu extraordinaire, donc From Software. Je pense que tout le monde connaît parmi ceux qui nous écoutent, mais en plus l'idée incroyable d'avoir, en fait, de baser le succès d'un jeu sur sa difficulté, parce que c'est tout le succès des jeux From Software. Hein, les Dark Souls, c'est pareil, tu achètes un jeu pour en baver, pour mourir encore et encore et encore et encore, et avec toute la communauté qui s'est créée autour, notamment sur Twitch. C'est une des belles success stories de cette année. Ils s'en est vendu 13 ou 14 millions, je crois, à date.
Voilà, et puis bien sûr l'épisode PS5 de Raphaël, peut-être pour terminer. Tu en es où alors?
Parce que ça fait 2 ans. Ça y est. Non,
Est-ce que pour tes vacances au soleil, tu auras une PS5?
Je ne pense pas. Voilà. Non, je pense que j'aurai peut-être une PS5 à la rentrée ou en fin d'année.
Ah, d'accord.
Mais je partirai sans PS5. Voilà, non, c'est toujours pas de PS5.
Écoutez, parce que je sais que vous êtes très nombreux à vous poser la question.
Et d'ailleurs, je remercie. Il y a des téléspectateurs,
des auditeurs,
qui m'envoient des petits messages pour me donner des bons plans et tout. Alors, c'est adorable. C'est vrai que du coup, je suis un peu la fine bouche, mais c'est vrai qu'ils m'envoient des plans souvent où faut payer avec un jeu à 800€ et tout.
Ouais.
Non, je préfère attendre tranquillement, d'avoir.
Toi, tu veux une PS5 nue, en fait.
Mais oui, parce qu'en fait, moi, je joue.
Il joue pas. Il joue juste la PS5.
Il veut la mettre au loup, bien qu'il
est. En fait, je veux même pas la brancher. C'est juste pour la décoration.
C'est ça, mais elle est tellement belle.
C'est un bel objet. Hein.
En fait, moi, je suis vraiment le type qui joue à genre FIFA et les jeux Star Wars. Donc, c'est pour ça que je suis pas très pressé et c'est pour ça que je vais pas acheter le pack.
Le bundle.
Et le bundle.